Comment imaginer la vie sans la littérature, sans les livres? C'est une source fabuleuse, un puits pour l'imaginaire, et c'est Francis Bacon qui le dit. Peinture, littérature, aller-retour, avec aujourd'hui Didier Ottinger, Yves Perret et Agnès Van Wang.
La compagnie des poètes, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
Les gens peuvent me dire ce qu'ils pensent de mes tableaux et qu'est-ce qu'ils disent. Parce que pour moi, quand un tableau est fini, je le laisse, je ne pense jamais plus à ce tableau.
Agnès Van Wang, Didier Ottinger, Yves Perret, bonjour, bienvenue à tous les trois. D'interprétation, il va être question aujourd'hui, d'interprétation et de Bacon, dont l'œuvre fit écrire Michel Léris, beaucoup, mais aussi Hervé Guibert, Milan Kundera, le poète Jacques Dupin, Claude Simon, Jonathan Little et quelques autres. Fait écrire aujourd'hui Agnès Van Wang, qui signe La Collectionneuse, un bref, disons, néo-polar, au Mercure de France, qui met une privée à la recherche de l'homme au lavabo, du dit Bacon, a fait et vous fait écrire, Yves Perret, poète, ami, qui signait Francis Bacon ou La mesure de l'excès chez Gallimard, un copieux essai largement illustré, une sorte d'exercice d'admiration dans lequel vous approchez son œuvre pas à pas et tracez même les contours de l'homme et revenez sur ce qui vous allie à lui dans les années 80 en particulier. Mais Bacon fit aussi lecteur, ou plutôt relecteur, on va y revenir beaucoup, c'est le fil qui tient l'exposition tout juste ouverte au Centre Georges Pompidou, dont vous êtes le commissaire. Didier Ottinger, peut-être avant de commencer, un premier tout petit tour de table sur ce qui vous lie l'un et l'autre, non pas les uns et les autres, les unes et les autres, non pas à Bacon, mais à sa peinture. Qu'est-ce que Bacon était pour vous, Yves Perret, avant que de le rencontrer? Qu'est-ce qu'il était pour vous, Didier Ottinger, avant que de l'exposer? Et vous, Agnès Van Wang, avant que de l'écrire?
Pour moi, Francis Bacon, c'est une exposition d'abord qui a eu lieu au Centre Pompidou en 1996, qui était une importante rétrospective qui était organisée à l'époque par David Sylvester, le fameux
des entretiens.
Et moi, je venais juste d'arriver au Centre Pompidou, je prenais mes fonctions dans ce grand musée et je tombe sur l'œuvre de Francis Bacon. Et là, effectivement, ça me marque durablement au point de me dire un jour, je saisirai moi aussi l'occasion, je vais travailler sur Francis Bacon et proposer une exposition capable de répondre d'une certaine façon à celle qui m'avait tant impressionné en 96.
Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement?
Eh bien, ce qui m'avait en particulier marqué, et ça a été conforté par d'autres expositions que j'ai vues par la suite de Francis Bacon, c'est l'incroyable métamorphose de son œuvre au tournant des années 70. Et c'est de cette période-là, effectivement, dont traite l'exposition aujourd'hui du Centre Pompidou, puisqu'on est de 71, date de l'exposition du Grand Palais, la célèbre exposition qui a lancé internationalement Francis Bacon, jusqu'à sa mort en 92.
Yves Perret.
Ce qui m'a frappé tout de suite, avant bien sûr de connaître Bacon, je ne pensais pas à l'époque devenir son ami, c'était pas pensable quelque part, c'était une peinture que j'ai vue à la fois au Grand Palais, et chez
chez
Claude Bernard en 77, et puis par la suite tout le temps à toutes les expositions. Entre-temps, je ferai la connaissance de Bacon, mais ce qui m'avait frappé, c'était à la fois le fait que ce soit une œuvre figurative et elliptique, pas du tout bavarde, pas du tout narrative, figurative mais sans concession, et en même temps, c'était la tension de la construction, la touche des couleurs, c'était quelque chose qui éclatait en peinture, pour le regard, de manière inédite. C'est quelque chose d'assez vertigineux.
De lui, vous dites d'ailleurs qu'il vous fait reculer en vous-même.
Oui, c'est tout à fait vrai. Oui. C'est-à-dire qu'il nous pose une question qui n'est pas une question que lui nous pose, il nous la pose, mais on se la pose aussi. Et en fait, lui donne la réponse mystérieuse à la question difficile que l'on se pose soi-même. Et alors, du coup, devient quelque chose de très proche. De très, très proche. Et au fond, Bacon a fait des tableaux moins bons, des tableaux géniaux, souvent, des tableaux historiques, mais il ne déçoit pas. C'est-à-dire qu'il prend ses risques, toujours, ses risques énormes. Il adorait l'accident, il adorait jouer avec le hasard, avec tout ça, alors que tout était aussi assez construit. Il y a toujours des contradictions, des tensions de force contraires.
Anne Van Hovang.
Bacon, c'était pour moi un peintre avec lequel je suis entrée dans une relation de façon très personnelle, très intime, lorsque j'étais jeune étudiante, il y a 20 ans, parce que j'avais à l'époque lu ce magnifique petit essai de Michel Herris qui s'appelle « Bacon ou la brutalité du fait », parce que j'avais lu cet essai que j'ai trouvé, ce qui m'avait ébloui, « Logique de la sensation » de Gilles Deleuze. Et donc 20 ans après, c'est devenu Bacon un moteur dramaturgique très fort, et je me suis beaucoup intéressée dans mon roman à l'homme au lavabo qu'il peint en 76 et qui a donné lieu donc à ce texte.
On va y revenir bien sûr, on écoute Francis Bacon.
Dans ce que je cherche à faire, au fond, on ne peut pas savoir comment le faire. Parce que le moment qu'on sait comment le faire, on commence tout de suite à faire une illustration. Même si ce n'est pas l'illustration ordinaire. Alors, dans un sens, c'est forcé d'être inconscient.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode?
Non.
Alors, vous êtes obligé de travailler dans le noir?
Oui. C'est pour moi de attraper les accidents que la peinture peut me donner et que les marques, on dit marques en français, les marques qu'on fait dans une façon souvent inconsciente peuvent retourner dans une façon beaucoup plus exacte sur le sujet qu'on cherche à refaire.
Francis Bacon en 75, hein, au micro de Michel Couturier sur France Culture. Francis Bacon qui, d'entretien en entretien, martèle son refus de l'illustration. Et on reviendra bientôt, bien sûr, sur cette façon de conduire ou parfois même de verrouiller l'interprétation de son œuvre. Le refus de l'illustration comme le refus de la narration. Un mot, Yves Perret, peut-être sur cette voix, sur ce français, sur cette langue française de Bacon, sur laquelle vous vous attardez un petit peu dans votre livre. De quoi était fait ce français et ce rapport à la langue française? Parce qu'on verra bien sûr que son rapport à la littérature passait très fortement par la littérature française.
Son français était subtil, extraordinairement mélodieux, hein, comme sa parole en général, même en anglais c'était pareil. Et surtout, il y avait des essais. Il lançait un mot, il y avait des sortes de préciosités, pas tout à fait précieuses, mais qui suspendaient le cours de la phrase, ou alors, il se lançait dans la construction, si on veut, de fragments de phrases avec des mots qui savouraient. C'était quelqu'un qui parlait très bien le français. Il était très impressionné par la littérature française, hein, très impressionné par Saint-Simon, très impressionné par Baudelaire. Il était impressionné par beaucoup, beaucoup d'auteurs français. Il adorait deux personnes, bien évidemment, dont l'une était un de mes amis, et c'est ce qui nous avait fait connaître, c'est Michel Léris, et l'autre, c'était Georges Bataille. Avec les deux, il avait un rapport extrêmement fort, mais qui était un rapport d'amitié avec Léris, en plus. Et d'admiration. Et avec Bataille seulement d'admiration, et par le biais de Léris aussi un peu d'une sorte d'affection admirative.
Pas d'illustration, donc pas plus que dans ce qui lie la peinture de Bacon à ses lectures. Hein. Vous en avez choisi 6, Didier Ottinger, dans l'exposition au Centre Georges Pompidou. Il y a là Les Euménides d'Eschyle, La naissance de la tragédie de Nietzsche, Miroir de la tauromachie de Léris, Au cœur des ténèbres de Conrad, et puis The Wasteland de T.S. Eliot. 6 livres qui sont exposés, encagés presque, hein, comme des petits talismans, des petits fétiches sous verre qui sont accrochés dans des petites salles sombres, qui sont postés comme ça, comme des puits sonores, hein, avec des lectures tout le long du parcours, tout le long de l'exposition. Qu'est-ce qu'on sait de cette bibliothèque dans laquelle vous avez pioché, Didier Ottinger? Qu'est-ce qu'on sait de son organisation, de sa teneur, de son usage?
Eh bien, on a la chance d'en savoir à peu près tout, puisque cette bibliothèque a fait l'objet d'un inventaire très systématique, accessible d'ailleurs à tout le monde, puisqu'elle est disponible sur le web. Elle a été menée, cet inventaire a été mené par le Trinity College de Dublin, et là, on découvre qu'il y a plus de 1000 titres, et lorsque l'on va un peu plus loin, que l'on est confronté physiquement à ces ouvrages, on constate, c'est ce qui m'avait vraiment frappé, que ce sont des ouvrages qui relèvent d'un usage intensif. On en a quelques exemples d'ailleurs dans l'exposition, ils sont déchirés. Si on a la chance de pouvoir les manipuler, on découvre qu'à l'intérieur, ils sont souvent annotés, ils sont surlignés, les pages sont parfois déchirées quand elles sont importantes pour Bacon. Et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer une exposition qui rende compte de cette... boulimie de lecture de Francis Bacon avec peut-être une trentaine d'entrées. Là, je me suis limité dans l'exposition à 6 pour des raisons qui sont presque objectives. Pour ces 6 auteurs, en tout cas, il y a directement des œuvres que l'on peut rattacher à ces sources littéraires par l'iconographie, par des esquisses de narration et autres.
Ou par des saluts, comme vous dites, Yves Perret. Alors, on a le sentiment, et effectivement les livres les montrent, que Bacon serait plutôt relecteur que lecteur. En tout cas, on a l'impression que le champ est assez restreint, ou alors en tout cas le devient de plus en plus. Et l'exposition dit ça aussi, hein, en se concentrant sur ces 6 textes, sur ces 6 figures. Au fond, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est même lecteur que peintre ? Alors, je m'explique, c'est-à-dire que le mouvement serait un petit peu le même, assez proche, c'est-à-dire relire comme lui peut aussi repeindre, c'est-à-dire rejouer la partie en permanence, repenser, réaffirmer.
Relire peut-être, mais aussi au fil du temps, décanter. Quand on regarde quels ont été ses intérêts, on pourrait dire poétiques ou philosophiques, on se rend compte qu'ils sont vraiment liés à cette famille des 6 auteurs identifiés dans l'exposition. Ils ont tous vraiment, d'ailleurs, des liens les uns avec les autres. On peut tout à fait tisser des fils. On peut tisser des fils. On connaît l'exergue d'Eliot consacré à Conrad. On sait comment Bataille était passionné par Nietzsche, etc. Ils forment véritablement une famille. Et si on peut rassembler cette famille autour d'un seul mot qui les caractérise tous, je crois que c'est le sens du tragique. C'est en cela qu'il relève d'une véritable famille spirituelle qui est celle à laquelle s'identifie de plus en plus Bacon au fil du temps. Comme s'il décantait effectivement toutes ces informations, toute cette richesse littéraire à laquelle il a eu accès pour arriver à cette cristallisation qui pourrait se résumer à ces 6 livres, je crois.
Yves Perret ?
Effectivement, ces 6 sont relativement pour moi, sur des terrains assez différents. Nietzsche est un peu autre chose, ça a toujours été l'idole, mais c'est une idole d'un certain type. C'est un philosophe, mais c'est aussi un grand poète. Bacon en admirait la langue. Il a lu beaucoup de livres de Nietzsche. Mais disons que c'est plus large encore que ça. C'est-à-dire que c'était un enthousiasme très profond pour des aventures de langue assez radicales. À chaque fois, c'était radical. Parce que ce qui est peut-être le plus commun à tout ça, c'est la radicalité. Par exemple, celle de Donne, celle de Shakespeare, qui sont... Du reste, Shakespeare, pour lui, souvent venait avec Eschyle. Avec Eschyle. Eschyle et Shakespeare étaient ensemble. Il les accolait comme les deux versants de quelque chose de flamboyant pour lui.
Alors, puisqu'on en parle, justement, on écoute.
J'entre au fond du sanctuaire, couvert d'offrandes. Et je vois, près de l'ombilic, un homme souillé de sacrilège, assis en suppliant, qui serre dans ses mains dégouttantes de sang une épée fraîchement tirée et un long rameau d'olivier soigneusement enveloppé de bandelettes, ou, pour mieux dire, comme une éclatante toison. Devant cet homme, une étrange troupe de femmes est endormie sur des sièges. De femmes, je veux dire, de gorgones. Non, ce n'est pas aux gorgones qu'elles ressemblent. Je les ai déjà vues un jour sur une image, ces harpies, ravissant le repas de Finée. Mais celles-ci n'ont pas d'ailes. Elles sont noires, absolument repoussante. Le souffle de leur ronflement ne se laisse pas figurer. De leurs yeux coule une libation d'horreur, et leur parure ne se porte avec justice ni devant les statues des dieux, ni sous les toits des hommes. Jamais je n'ai vu de meute de cette espèce, ni la terre qui prétendrait avoir nourri leur race, sans dommage et sans regretter son épreuve.
Un extrait des Euménides tirés de l'Orestie, d'Eschyle, lu par Dominique Raymond et entendu dans l'exposition, l'Oresti, qui serait donc c'est la première et la plus durable source d'inspiration littéraire, hein, il s'y réfère déjà en 44, il va s'y référer en permanence tout du long, comme vous le suggériez, Didier Ottinger, ce qui est premier, c'est la tragédie, ou en tout cas le sentiment de la tragédie.
Oui, c'est vrai que Eschyle, le premier accès possiblement pour Bacon à Eschyle a lieu à la fin des années 30 lorsqu'il assiste, et on le sait à plusieurs reprises, à une des pièces de T.S. Eliot qui est La Réunion de famille, qui transpose précisément l'Oresti dans l'Angleterre contemporaine. Et à un certain moment, il est interrogé sur l'intérêt qu'il porte à l'œuvre de Proust et immédiatement, il se souvient d'un épisode très particulier dans le récit proustien, qui est celui de la chute dans le temps retrouvé de Charlus, qui bute sur un pavé et s'écroule sur le sol. Ça, c'est une forme de transposition de ce qu'est le sens tragique tel que, me semble-t-il, Bacon l'a toujours compris. La grande tragédie qui l'intéresse, c'est celle qui canalise précisément Frédéric Nietzsche, c'est-à-dire une tragédie qui est antérieure à la phase humaniste de la culture grecque, c'est-à-dire dans ce moment encore, avec Eschyle, avec Sophocle, où les hommes sont des marionnettes entre les mains de dieux qui sont capricieux, qui sont parfois cruels, qui sont parfois pervers. Et c'est ce qu'on retrouve dans toute la définition même de la littérature qui intéresse Francis Bacon, et ces images, au fond, sont la traduction de ce sentiment-là, polarisé entre le sentiment de grandeur et de dignité et la futilité de l'existence quotidienne.
En vérité, toute l'œuvre de Bacon est une immense Oresti, érigeant le fait divers en mythe, fouillant l'atmosphère contemporaine pour révéler le foyer de la tragédie. Ça, c'est vous qui le dites, hein, Yves Perret.
Oui, la tragédie, évidemment. Puis dans tout cela, on a à la fois, tout est contenu, c'est-à-dire c'est la tragédie qui apparaît, c'est le sacrifice. C'est, du reste, cette hésitation entre l'Antiquité et le christianisme, entre la crucifixion et le sacrifice lui-même, c'est ces deux choses qui se rejoignent chez Bacon dans ses tableaux. Et ça va d'autant plus se rejoindre que la forme du triptyque va venir aussi de là. C'est-à-dire comme si toujours, en trois temps, on devait déterminer la réalité.
Alors, il faut peut-être rappeler que l'Oresti aussi est structuré en trois.
Une des sources majeures de la forme du triptyque qu'il adopte dès 1944. Oui.
Le triptyque, en fait, lui vient, sa forme lui vient de deux façons. Elle lui vient de la peinture et elle lui vient du théâtre antique. Elle lui vient, bien sûr, d'Eschyle, mais aussi, parce qu'il l'aimait beaucoup, de Sophocle.
Le fait, justement, alors ce lien-là, alors des liens, il y en a beaucoup, hein, parfois très elliptiques, rarement illustratifs. Alors lui, il disait pas du tout, mais bon, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Mais justement, par exemple, le fait que le choix du triptyque puisse regarder Eschyle d'une certaine façon témoigne peut-être justement de ça. C'est-à-dire ce qu'il va reprendre aussi dans ses lectures, c'est parfois moins le récit, la narration, qu'une forme ou une structure.
Ces tableaux eux-mêmes sont doubles, comme ses lectures. C'est-à-dire qu'il est hanté par une chose dans les lectures, c'est-à-dire le fond, c'est-à-dire notamment la tragédie, l'aspect abrupt, l'aspect grave, comme dans par exemple, Au cœur des ténèbres de notre ami Conrad, qui est là évidemment est un livre pour lui, enfin vraiment pour lui.
C'est lui qui n'aimait pas les romans.
Mais c'est pas un roman, c'est un récit. Alors, voilà, comme disait Bacon lui-même, il disait qu'il détestait les romans et qu'il adorait les récits. Donc là, on y est complètement. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il est très marqué dans ses lectures par des formes, par un aspect, comment dire, de structure. Et par exemple, dans cet étonnant triptyque où il rend à la fois, il m'avait dit par exemple qu'il avait pensé ne jamais s'en sortir de ce triptyque, puisqu'il voulait y rendre un hommage à Conrad, un hommage à Eschyle, et aussi bien un hommage à Léris. Et l'hommage à Léris passait surtout par la lecture de Frêle Bruit, le quatrième et dernier tome de La Règle du Jeu, qui était un livre éclaté, un livre au fond de fragments. Et Bacon avait trouvé dans cet aspect fragmentaire quelque chose de très important pour lui, y compris pour ce tableau impossible à faire.
C'est donc le triptyque de 76, hein, je
voilà,
pense.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ce triptyque qui est effectivement un triptyque, comme vous le savez, assez lourd, assez fouillé, assez dense, assez complexe, magnifique, en mettant par les deux figures qui sont probablement celles de Léris, d'une certaine manière, et l'autre, c'est forcément Kurtz, le héros de Cœur des Ténèbres, ça oui, mais chez Bacon, ça a toujours été ainsi. Il a aimé aussi les structures. De même que dans sa peinture, on voit au centre, que ce soit à ses débuts ou le centre émerge du fond, ou que ce soit après, quand le fond vient entourer, à partir de 62, le fond est deuxième, il est après la figure, il vient encercler la figure comme une mandorle. Ça, c'est très beau. Mais dans les deux cas, il y a toujours cette figure qui est la tragédie même, qui est la difficulté même, sauf quelques cas de qui sont autres, il y a aussi de l'affection, mais y compris dans la déconstruction des figures. Mais il y a toujours le fond, qui, lui, par la tonalité des touches, par les aplats aussi bien que les touches, d'abord les touches, puis ensuite les aplats, mais dans les deux cas, une sorte de tendresse, une sorte de beauté, une sorte de calme, une sorte de paix, qui deviendra de plus en plus manifeste, par exemple, qui culmine avec un tableau très précis, qui est Les lutteurs de Muybridge, dans sa deuxième version, qui est celle de 80. Alors là, on a un tableau d'une clarté inimaginable, peut-être le plus clair de tout ce que Bacon a fait, et il y a toujours chez lui cette espèce de contradiction entre cette figure qui est une sorte de soubresaut et le fond qui est une sorte d'accueil bienveillant à cette figure. Alors ça, c'est très important. Donc tout ça, il le tirait aussi de ce qu'il pouvait entendre, de ce qu'il pouvait voir, de ce qu'il pouvait lire.
C'est ça. Alors de ce qu'il pouvait lire. Oui, Didier Ottinger, vous vouliez ajouter quelque chose?
Je rajouterais, effectivement, pour aller dans le sens des propos d'Yves Perret, son intérêt pour Eliot vient exactement des mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il est suffisamment, un lecteur suffisamment avisé pour être à la fois frappé, évidemment, par le contenu propre du texte, mais également par la forme même que ces grands auteurs ont donné à leur texte. Et on sait qu'il a été fasciné, visuellement également, par la publication dans les années 60 du manuscrit original du Wasteland, tel qu'il avait été corrigé par Ezra Pound. Et là, on voit, si on regarde ce texte, des ratures, on voit des rajouts. Il y a évidemment la structure même du texte avec sa polyphonie linguistique, etc. Et ça aussi, c'est directement transposé par Bacon, et c'est une autre façon de considérer la littérature.
On écoute.
L'enterrement des morts. Avril est le plus cruel des mois. Il engendre des lilas qui jaillissent de la terre morte. Il mêle souvenance et désir. Il réveille par ses pluies de printemps les racines inertes. L'hiver nous teint au chaud de sa neige oublieuse, couvrant la terre, entretenant de tubercules secs une petite vie. Quelle racine s'agrippe, quelle branche croisse parmi ces rocailleux débris. Ô fils de l'homme, tu ne peux le dire ni le deviner, ne connaissant qu'un amas d'images brisées sur lesquelles frappe le soleil. L'arbre mort n'offre aucun abri, la sauterelle aucun répit, la roche sèche aucun bruit d'eau. Point d'ombre. Si ce n'est là, dessous ce rocher rouge, viens t'abriter à l'ombre de ce rocher rouge. Et je te montrerai quelque chose qui n'est ni ton ombre au matin marchant derrière toi, ni ton ombre le soir surgir de rencontre. Je te montrerai ton effroi dans une poignée de poussière. Frisch weht der Wind, der Heimat zu, mein heilig Kind, wo weilest du?
La voix de Carlo Brandt lisant donc un extrait de The Wasteland de T.S. Eliot, dont Bacon disait qu'il connaissait les vers par cœur. J'imagine qu'on peut presque le croire. Au fond, Bacon expliquait que la littérature, pour lui, pouvait produire, alors j'imagine produisait des images, mais fonctionnait plus comme presque comme une excitation à peindre, ou plus qu'une inspiration d'ailleurs, véritablement une excitation. Et je me demandais ce qu'on savait du démarrage d'une toile hein, chez Bacon, de comment il se mettait à la toile, hein, comment il commençait, d'où partait la toile, puisqu'on en est à ce moment d'excitation.
On sait par la découverte qui a été faite du dernier tableau sur le chevalet dans l'atelier de Bacon peu après sa mort. Il a toujours dit, il commence une esquisse avec un fusain sur une toile et ça donne une forme qui se développe elle-même. Et c'est de ce point de vue-là peut-être qu'on peut aussi traiter des questions de l'atavisme surréaliste dans l'œuvre de Bacon. Qui
alors, justement, Didier Ottinger, j'allais vous poser la question. Quand vous parlez donc effectivement dans les années 70, et enfin au moment donc du triomphe de l'abstraction, et puis de cette étanchéité assez ferme hein, entre la peinture et la littérature, hein, donc où il nageait manifestement plutôt à contre-courant, mais en même temps, on n'est pas dans une forme de lien qui serait celle du prolongement du surréalisme. Lui qui s'est cru surréaliste un temps, un petit peu.
Il y a cru.
Oui, très peu, très peu.
Il s'est déclaré, il était candidat à l'exposition de 1936 à Londres.
C'est vrai. Mais en même temps, ce qu'on peut dire quand même pour le départ de Bacon sur une toile, et aussi bien pour son invention, parce que c'est ça, Bacon bougeait beaucoup. Il prend une toile, il commence une première esquisse, en fait c'est presque toujours comme ça, une esquisse qui peut être soit du reste du pastel qu'il jette, un peu de fusain, ça peut aussi bien être de lui, ça peut être tout. Il commence par quelque chose. Et puis... très fréquemment, il change d'orientation. C'est-à-dire que, on l'a su, bien évidemment, par certains de ses grands tableaux, où certains oiseaux sont devenus des parapluies, où certains singes sont devenus des hommes. Bon. Il y a une métamorphose du tableau. C'est-à-dire, le tableau est en mouvement pendant un certain nombre de matinées auxquelles il s'adonne à ce tableau, et au bout d'un moment, les métamorphoses successives du tableau vont aboutir à une force qui prend le dessus, et qui donne plus ou moins, avec quelques ajustements qu'il fait, le tableau qui va surgir. Mais c'est vrai que quand il parle d'excitation qui le pousse à peindre par l'écriture, c'est souvent quelque chose comme un élément un peu musical qu'il y a dans l'écriture qui le pousse à agir. Mais il a quand même une contradiction très forte là-dessus, c'est qu'il veut que ça soit d'un seul bloc, d'un seul tenant. Pour lui, même un triptyque, c'est presque, ce en quoi on pourrait un peu le contester, c'est pas, il veut dire qu'il n'y a aucune relation. En fait, souvent, les panneaux latéraux sont des gloses du panneau central ou des témoins du panneau central, puisqu'il l'a dit lui-même. Mais en réalité, il veut quelque chose de total dont il ignore tout au départ, même quand il s'imagine rendre justice à Conrad, par exemple, ou à T.H. Eliot. Brusquement, le centre du grand triptyque, qu'on dit souvent Sweeney Agonist, pour une pièce inachevée de Eliot, mais qui est plutôt, qui se réfère plutôt à Vastland. Mais enfin, ça, c'est encore autre chose. Mais le panneau central, c'est une vue de la mer Égée, avec en dessous une pièce de viande et un sac de voyage. Bon. Et puis sur les côtés, les panneaux latéraux sont plus ordinairement Bacon. Mais au fond, l'hommage à Conrad ou à Eliot qu'il fait sont toujours des déplacements. C'est-à-dire qu'il surprend. Ce n'est pas un illustratif. C'est il a senti quelque chose, peut-être plutôt un mouvement. Lui qui est un fanatique du mouvement depuis toujours. Il a senti un mouvement et c'est ce mouvement qu'il retraduit picturalement sur sa toile. Mais c'est pas quelque chose qui viendrait prolonger ou illustrer ou gloser sur l'œuvre écrite. C'est un élan qui lui est donné. C'est pas autre chose. Et un élan vital.
Qu'est-ce qu'il distinguerait alors, Didier Ottinger, justement, ce nœud-là ou ces déplacements-là chez Bacon de ce qui s'est joué dans le corpus surréaliste hein, entre
Je pense que tous les termes qui sont employés
poète et peintre
par Yves Perret nous renvoie au surréalisme. Il nous parle d'automatisme d'une certaine façon. Et c'est vrai que quand Bacon relate la réalisation d'un tableau comme le tableau 46, celui qui appartient aux collections du MoMA de New York, on a là une sorte de cadavre exquis. Et on voit se développer les formes de façon presque automatique. Il y a également un terme qui a été employé et qui est vraiment au cœur de la poétique surréaliste, c'est la notion de métamorphose. C'est vrai que les formes de Bacon sont en métamorphose parce qu'au fond, ce qu'il recherche, c'est le mouvement même de la vie. Et dès lors, il retrouve quelque chose qui a été déjà expérimenté, réalisé par des grands surréalistes. Je pense à quelqu'un qu'il admirait par-dessus tout, qui est André Masson, le peintre des métamorphoses par excellence, et aussi peut-être celui...
Le plus nietzschéen aussi, peut-être.
Voilà, et j'allais dire, le plus nietzschéen tendance dionysiaque, c'est-à-dire quelqu'un qui a été attentif à cette espèce de contradiction définie par Nietzsche lui-même, c'est que la peinture se livrait assez peu, s'offrait assez peu à l'inspiration dionysiaque. C'était plutôt Apollon qui régnait.
Bon, on va manquer de temps, évidemment, mais en tout cas, l'une des figures centrales dont on n'a pas encore parlé, bien sûr, c'est Michel Léris, hein, qui était à la fois l'ami et l'admiré. Hein. J'imagine que leur relation était faite de ça aussi, en tout cas que la place de Bacon était celle-là, était aussi celui qui admire. Alors peut-être qu'en retour, Bacon aurait sans doute enseigné aussi des choses à Léris, mais... Ah oui, dites-vous, Yves Perret. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez que Léris devrait à Bacon ?
Ah ben, il y avait chez Léris une fascination pour la violence surmontée de Bacon qui était étonnante. Moi, j'ai connu Bacon par Léris, parce que j'étais ami avec Léris, et donc c'est comme ça que j'ai connu Francis Bacon. Bon, mais je les ai donc vus ensemble, discuter. On était trois, mais enfin, parfois on discutait à deux, mais parfois à trois aussi, souvent même. Et donc, ses admirations... Léris était très marqué par Bacon, très impressionné. Il admirait beaucoup son sens de la déformation, par exemple, dans les images. Il admirait beaucoup sa tonicité, il admirait beaucoup sa violence, il admirait aussi son calme. Il était étonné par, au fond, ce qui nous étonne tous, c'est-à-dire les contradictions surmontées de Bacon. C'était ça portait énormément à Léris.
Et du côté de Bacon, en allant vers Léris, évidemment, Léris offrait à Bacon ce à quoi il a toujours aspiré, c'est-à-dire... C'est-à-dire le ticket d'entrée dans une famille, cette fois artistique, à laquelle Bacon s'identifiait. Léris, c'était le compagnonnage avec Picasso, c'était le compagnonnage avec le surréalisme, c'était le premier préfacier de Giacometti dans la revue Document. C'est-à-dire celui qui était dans ce panthéon artistique auquel Bacon s'identifiait. Et ayant gagné l'estime, le respect, l'admiration de Léris, il s'apparentait à cette famille-là, précisément.
Est-ce que c'est ce qu'il donne à voir aussi, parce que c'est curieux, vous ouvrez quasiment l'exposition avec l'un des portraits que Bacon a fait de Léris, hein, qui est donc ce petit portrait à format masque, hein, d'une certaine façon, enfin en tout cas qui ressemble, oui, à un format masque. Vous ouvrez par là, il en a fait deux, hein, donc il y a celui de 76 et celui de 78.
Très différentes d'ailleurs.
Très différentes, oui. l'une version plus ressemblante, l'autre moins Bacon, disant que la moins ressemblante était forcément, probablement, évidemment, la plus exacte, hein. Qu'est-ce qu'il a cherché à capter au fond de Léris dans ce petit portrait ? Défaire le visage, disait Deleuze, retrouver ou faire surgir la tête sous le visage.
Il a essayé de capter dans le portrait de Léris, qu'il captait dans tous les portraits, j'allais dire dans toutes les figures qu'il a conçues, c'est-à-dire le frémissement même de la vie. Et c'est d'ailleurs quelque chose que lui renvoie Léris, puisque une des grandes raisons d'admiration de Léris pour l'œuvre de Bacon, c'est qu'il y voit des sortes de golems, il y voit des personnages qui sont aussi vivants que la vie elle-même. C'est ce que dit, écrit Michel Léris. Et c'est ça la quête de Francis Bacon. Et c'est la raison pour laquelle ces figures semblent être des mouvements continus entre les moments que pouvait saisir, par exemple, le peintre cubiste ou la chronophotographie. On a l'impression qu'il accomplit le chemin entre ces différentes étapes pour restituer le mouvement de la vie elle-même.
Il y a aussi l'extrême fidélité dans la déformation. Et ça, c'était très important.
Et en pensant très souvent, effectivement, au Rembrandt tardif, parce qu'il voit dans l'exercice ou la pratique du portrait chez Rembrandt, à la fin de sa vie, une forme de synthèse dans l'exécution, quelque chose que Bacon traduit aussi dans ses interviews tardifs en parlant de son obsession visant à abréger la forme, à trouver le geste le plus rapide, le plus automatique possible, qui en même temps dit le plus de la vérité du sujet.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farine.
Je voudrais revenir peut-être pour finir sur ce... Enfin, pour finir, pas tout à fait, mais pour finir sur cette chaîne, au fond, que dessinent ces six auteurs, ces six livres que vous avez choisis, Didier Ottinger, dans l'exposition. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, hein, je pense à T.S. Eliot regardant Eschyle, lui-même regardé par Nietzsche, Bataille regardant Nietzsche, Léris regardant Bataille, etc. Enfin, vraiment, cette chaîne très serrée entre tous ces auteurs. Et exposer Bacon par la littérature, j'imagine, c'était aussi tenir un discours sur cette littérature, d'une certaine façon. Qu'est-ce que ce choix-là raconte ? Alors, le vôtre, bien sûr, mais surtout celui de Bacon, qui, au fond, dit une époque, en tout cas, dit un moment très particulier, très précis, de la littérature, alors le moment de la Sainte Trinité, hein, Nietzsche, Bataille et Sade, Sade que Bacon, par ailleurs, alors, évacue.
Il dit quelque chose d'essentiel sur la nature même de l'art, qui est assez peu audible aujourd'hui. C'est par exemple l'analyse que mène quelqu'un comme Bret Easton Ellis dans son dernier ouvrage, où il parle de l'incapacité du moment contemporain à penser la contradiction, la complexité, voire même le mal, dirait l'autre. Et ce qui regroupe ces six auteurs, c'est précisément ça. Une pensée de la coïncidence des contraires. C'est Apollon et Dionysos chez Nietzsche, c'est Eros et Thanatos chez Bataille, c'est la civilisation et la barbarie chez Conrad, c'est voilà tout ce qui rassemble ces auteurs, et c'est une forme de pensée qui nous renvoie, qui a été synthétisée peut-être dans l'ouvrage de Georges Bataille consacré à la littérature et le mal. C'est-à-dire que, effectivement, la littérature et l'art, d'une façon générale, se nourrit aussi de l'impureté, se nourrit parfois de l'excès, se nourrit de la violence, et c'est une notion aujourd'hui assez nécessaire, en tout cas, à faire à nouveau entendre.
On aurait pu mettre Bowie, Starman, que vous envisagez très fort dans un casque en visitant une exposition de Bacon, Agnès Van Leeuwenhoek. C'est Étienne Dao, hein, des Heures Hindoues, extrait de l'album Pour nos vies martiennes en 88. Alors peut-être que certains se souviennent du clip signé Sébastien Chantrel, qui était calé, fondu littéralement, hein, dans l'imaginaire plastique de Francis Bacon, avec Dao en modèle baconien. Quelque chose qui, pour le coup, aurait davantage à faire avec l'illustration, pour vous en tout cas, Agnès Van Leeuwenhoek, qui signait La collectionneuse au Mercure de France, qui est un court roman à toute vitesse, hein, qui est une sorte de néo-polar au bord du pastiche, qui met une privée en mal de sexe, mateuse, collectionneuse de godes ceinture, électrice de Virginie Despentes, et son collègue sur les traces d'un célèbre tableau de Bacon qui est L'homme au lavabo, 1976, 198 x 147 cm huile sur toile. Histoire qu'on y voit plus clair, comment est-ce que vous décririez ce tableau, Agnès Van Leeuwenhoek ?
C'est un homme qui essaie de disparaître, de s'élancer, de s'accrocher au bord d'un lavabo, d'une matière a priori solide, et qui voudrait partir, mais qui est enfermé, qui est encerclé par des choses qu'on connaît très bien chez Bacon, une arène, un espace, un huis clos, et c'est une figure qui n'a pas d'identité, une forme un peu informe, Et j'ai articulé mon roman autour de cette disparition qui était un grand thème chez Bacon, qui pour moi permettait de réfléchir à cette question d'identité qui traverse tous mes romans et mes essais, notamment sur le genre. Et c'est un tableau très puissant. Bon, ce roman n'est pas l'illustration du tableau, mais c'est un prétexte en fait pour aller plus en avant.
Alors, on parlait d'interprétations, elles sont nombreuses hein, dans le roman. Agnès Van Ouvenge, parfois maladroite, parfois drôle, parfois intuitive, parfois très éclairée, selon les personnages, hein, parce qu'on tourne autour de ce tableau absent, puisque c'est un tableau qui a disparu, qu'il faut retrouver. Alors, une première description sèche, page 16. Le personnage central veut disparaître dans le lavabo, il semble coupé de lui-même et du monde, encerclé dans une arène, en fuite, sans identité, en mouvement, sous ses pieds un trou, les couleurs jaune, rouge et noir. Et puis bien plus tard, après moult péripéties, Paris, Genève, Bâle, Hong Kong, Bruxelles, Miami, enfin toutes les villes du monde de l'art, l'apparition du tableau, hein, comme un dénouement. Elle ne voit que la figure à l'horizontale prête à partir. Elle se dit c'est inouï. Le type essaie de se noyer dans le lavabo. Frédéric regarde les muscles, les biceps ronds, les courbes, le pied tendu, le dos, les poings collés au robinet, les cercles partout dans la toile, et puis le trou. Dans le corps et au-dessous, une sorte de chiotte dessinée dans la planche rouge, un truc où pourrait se liquéfier le type absorbé par la tuyauterie. La privée voit une flèche blanche pointée sur le personnage. Le regard se déporte vers le fond de la toile. Un store cache la lumière de la ville, une fenêtre sur cour, une sortie impossible pour le type aspiré vers un point de fuite. Et puis, un peu plus loin, un autre personnage. Le voilà enfin, mon trésor, mon Graal, l'homme au lavabo 1976. Je me suis toujours demandé ce que fait cet homme. On dirait une ombre derrière lui, une silhouette. Il essaye de s'en débarrasser comme s'il voulait changer de peau. Il semble souffrir, le pauvre, lutter comme un dingue. Le corps en contorsion, en mutation. C'est le prix de la délivrance. Ça ressemble à un début ou à une fin, au surgissement du matin ou de la nuit. Tu vois le truc blanc à ses pieds. On dirait un sexe d'homme. Au fond, la toile devient image qui devient un récit, un peu à l'envers de ce dont on parlait à l'instant, hein, dans toute la première partie de cette émission. C'est le tableau qui a déclenché le roman, c'est par là, par ça, ce que je viens de lire, que vous avez commencé à écrire.
Oui, c'est ça, il y avait un côté un peu puzzle. D'ailleurs, c'est l'objet un peu de... c'est la forme du roman. Et moi, ce que je voulais, c'était... Enfin, Bacon dit, dans la plupart de ses entretiens, il y a une obsession, c'est lui, c'est essayer de vouloir donner à voir, saisir, montrer quelque chose. Et je me suis un peu inscrite dans ce même geste de l'écriture, en fait, hein, qui est de représenter, d'incarner. Et je souhaitais mettre en scène cet homme qui est en train de disparaître, de mourir, d'agonir, et mes personnages qui sont deux détectives. Alors je reprends vraiment les ingrédients du polar, c'est un vrai faux polar, essaye de retrouver ce type qui a disparu. Et je suis partie effectivement du tableau qui m'a permis de construire ma fiction.
Didier Ottinger, Yves Perret, comment cette toile-là
vous
traverse-t-elle ?
Peut-être intéressant, vous parliez de la façon dont ce tableau avait inspiré, vous avez inspiré, mais vous savez, à mon avis, certainement que dans sa logique de la sensation, Gilles Deleuze analyse ce tableau et le rapproche précisément d'un épisode du Cœur des Ténèbres de Conrad, là où un prisonnier africain sur le bateau essaie de s'échapper par un tout petit trou, et c'est effectivement... pour Gilles Deleuze, une forme de transposition du geste accompli par la figure de Bacon. Mmh. Donc la littérature est en amont, en aval, elle est finalement partout.
C'est par la littérature d'ailleurs que vous y arrivez à Bacon, parce que là, vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure, Anne Van Ouvenge, mais vous avez travaillé sur Genet beaucoup, vous avez consacré une thèse à Genet, vous avez publié un essai sur Genet. Est-ce que c'est aussi Genet qui vous amène à Bacon ? Qu'est-ce qui se noue entre ces deux figures-là, pour vous?
Alors, c'est vrai que la question de la biographie, elle est assez importante. Alors, je pense à la biographie de Genet, qu'on peut un peu comparer et mettre en perspective avec celle de Bacon. Genet qui a vécu pendant une partie de sa vie comme un vagabond, une figure de l'errance, et Bacon, lorsqu'il s'est fait mettre dehors par son père parce qu'il a été surpris en train de se travestir avec les vêtements de sa mère, on a ce même geste de sortir et d'être quelque part un peu orphelin, c'est bien un grand mot, mais en tout cas d'être exclu. Donc il y a cette idée d'être à côté qui m'a toujours intéressée. Et deuxième élément, chez Genet, comme chez Bacon, il y a cette question du queer, ce qu'on appelle aujourd'hui le queer, donc de l'homosexualité, qui est un aspect très important chez Genet. Vous parlez du trou tout à l'heure chez Conrad. Chez Genet, on se rappelle d'un chant d'amour et ce trou minuscule par lequel les prisonniers essayent de s'échanger la fumée de la cigarette, tout ça, tout un érotisme très fort. Chez Bacon, comme chez Genet, cette question de l'érotisme, elle est extrêmement liée à la mort. Faire l'amour, c'est lutter. Vivre, c'est mourir. Et c'est vraiment cette tension que vous évoquez tout à l'heure qui, pour moi, est un moteur dramaturgique très fort.
Genet aurait pu figurer dans l'exposition d'Eddy Ottinger.
Il aurait pu, mais...
Il aurait dû.
Peut-être, mais à moins d'identifier un tableau ou une série d'œuvres de Bacon qui se réfèrent directement à Genet, ce que je n'ai pas pu faire, ce qu'aucun des exégètes de Bacon, d'ailleurs, n'a réalisé.
Ce qu'a fait Giacometti.
Yves Perret, qu'est-ce qu'on sait de ce qui liait Genet et Bacon?
Bon, c'était simplement, pour ce qui est de Bacon, une admiration d'écriture. Il admirait l'écriture de Genet. Et aussi, probablement, une fascination pour un univers qui quand même était très différent du sien, mais aussi proche par certains côtés. Il y avait à la fois une grande différence dans le rap. Par exemple, vous parliez de l'homosexualité de l'un et de l'autre. C'était assez différent quand même dans tous ces rapports. Il y a mais il y avait quand même quelque chose de cet ordre. Tout ça le fascinait. Alors lui aurait dit, probablement, il n'aurait pas été content qu'on dise ça, il aurait dit que c'était plutôt l'écriture. Mais c'était l'écriture et aussi toute l'homosexualité qu'il y avait derrière, c'était très important. Avec la violence qu'il peut y avoir derrière, avec ce goût qu'avait Bacon, au fond, comme on voit dans certains tableaux, de la morsure, de la violence extrême, de tout ça. Il y avait ce côté. Alors, il le retrouvait en partie chez Genet. Alors, probablement, c'était un point de rencontre aussi.
Oui, je pense qu'on peut ajouter également qu'il y a pour l'un comme pour l'autre, une esthétique de la clôture, un huis clos qu'on retrouve chez Genet dans ses romans sur la prison. Dans son théâtre également, sur un monde très, 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 très à côté.
Et puis chez Bacon, c'est tout à fait vrai, tout est en chambre, y compris par exemple les travailleurs de la terre, les laboureurs qui sont en chambre, y compris les paysages africains qui sont en chambre. Alors ça, c'est très étonnant. Tout est dans un monde clos de théâtre ou de film. Parfois c'est le film, ça peut être Hitchcock avec l'homme qui promène le chien qui est coupé là à mi-jambe, c'est étonnant, c'est très proche d'Hitchcock. Voilà.
À propos de monde clos, vous êtes allé, je crois, Agnès Van Ouvenc, voir la reconstitution de son atelier à Dublin. Qu'est-ce que ce lieu-là, devenu véritablement image, vous a soufflé?
Un chaos extraordinaire. D'ailleurs, Bacon, dans une vidéo que vous diffusez dans le cadre de l'exposition, dit la chose suivante. Il dit, lorsque j'arrive quelque part, c'est l'ordre et en quelques jours, c'est le désordre. Il y avait un livre de Karl Marx par terre, à côté d'une paire de baskets. Voilà.
Atelier mis en boîte miniaturisé par Charles Maton en 86, qui vient quasiment clore l'exposition du Centre Pompidou, d'Eddy Ottinger, dans une exposition qui, disons, s'en tient vraiment, littéralement, aux œuvres et aux lectures, c'est-à-dire sans explication, sans chapitrage, sans texte qui viennent tenir le visiteur par la main. Qu'est-ce que cette irruption matérielle, très incarnée, venait dire en conclusion?
Elle est liée effectivement à ce passage du petit film qu'on a monté où Bacon rend compte de la poétique même qu'il attache à ce lieu qui est son atelier, où il dit effectivement qu'il a besoin du chaos pour faire émerger les formes. Et ça rejoint exactement ce que disait Michel Léris dans l'ouvrage qu'il envoie à Francis Bacon après leur rencontre en 1965, qui est le miroir de la tauromachie, où Michel Léris développe cette métaphore de l'acte créateur lui-même, qu'il attribue aussi bien à l'écrivain qu'au peintre, et qu'il apparente à celui du torero. C'est-à-dire, en gros, faire entrer le chaos, la forme la plus hirsute, la plus sauvage, la plus débridée, dans la géométrie parfaite qui est celle des cercles platoniciens, qui est celle... C'est exactement ça, au fond, que traduit Bacon avec sa fascination pour le chaos. Mais le chaos pour en faire quelque chose. Condition préalable, nécessaire.
Alors, écrire avec, écrire sur, c'est aussi ce que vous collectez dans un petit ouvrage d'Idiot Tinger qui paraît en même temps aux éditions du Centre Georges Pompidou, co-établi avec Anna Edelston. Ça s'appelle Francis Bacon au scalpel des lettres françaises et il y a là des extraits de textes de Jean Clerc, de Philippe d'Agen, de Deleuze, de Jacques Dupin, dont un portrait figure également dans l'exposition, Hervé Guibert, Alain Geoffroy, Kundera, Léris bien sûr, Jonathan Little qu'on a cité tout à l'heure, Charles Maton, Philippe Meret, Gaëtan Picon, Claude Simon, Philippe Solaire, enfin, je ne sais pas si je cite tout le monde, il est à noter que n'y figure aucune femme, ce qui est intéressant, à l'exception d'une, je crois, et encore les co-signataires, si je ne me trompe
avec
pas.
Avec Didier Anzieux, oui.
Oui.
Psychanalyste, oui.
Et je me demandais, puisqu'on parlait tout à l'heure de Bacon étant à contre-temps, presque farouchement à contre-temps au moment du triomphe de l'abstraction, ce que ça signifiait pour ces écrivains ou poètes-là, je pense à vous aussi, Yves Perret, que de d'écrire avec Bacon ou d'écrire sur Bacon à ce moment-là, est-ce que ça faisait de vous aussi des poètes à contre-temps ?
Pas forcément, parce que l'impulsion d'écrire sur Bacon venait finalement d'une admiration formidable sur Bacon. Et c'était un point de rééquilibrage. Et par exemple, de même qu'il était difficile de dire qu'on admirait Rauschenberg, de même qu'il était difficile de dire qu'on admirait tel ou tel, il était difficile de dire qu'on admirait Bacon, parce que beaucoup ne l'aimaient pas. Beaucoup d'écrivains, à ce moment-là, ne l'aimaient pas. Quand moi, j'étais dans les années 70, par exemple. Enfin, je veux dire, dans les années 70, il n'était pas si bien vu que cela, comme beaucoup d'autres.
Qu'est-ce qu'on lui reprochait ?
C'est-à-dire que c'est pas qu'on reprochait tant que cela à Bacon ou à d'autres, c'est qu'on préférait des gens qui étaient de moindre envergure. Ça, et c'est un malheur à dire, c'est qu'il y a beaucoup d'écrivains qui n'ont pas un goût formidable de l'art. Ça arrive. Et c'était assez difficile. Il y avait des contraintes. Et donc, moi, je me souviens très bien que les deux hommes qui m'ont aidé à lever ces contraintes, que je ne voulais pas subir, du reste, c'est Michel Léris et Claude Simon. C'est eux qui étaient des gens que je fréquentais pas mal et qui avaient Léris avec Bacon, Claude Simon avec Rauschenberg, un point de vue très accueillant. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et là, et puis il y avait quelqu'un qui était au-dessus de tout ça, qui était magnifique, que Bacon admirait plus que tout, du reste, qui était Henri Michaud. Et Henri Michaud, lui, il s'en fichait. Et donc, il disait aux gens, allez-y, allez-y. Et comme on était assez liés, il me disait, oui, bien sûr, c'est tout à fait juste. Et j'en profite pour dire, puisqu'on parle de littérature, de peinture et tout, que Bacon admirait beaucoup Michaud comme écrivain. Il a des choses très belles sur Michaud écrivain. Mais il aimait beaucoup Michaud artiste et il estimait, il lui reste un des rares, c'est même la seule personne dont il a acheté deux tableaux. On dit un, parfois en fait c'est deux. C'est deux tableaux qu'il avait achetés de Michaud par admiration. Il les a donnés par la suite assez vite, mais il les a acquis. Ce qui était quand même une démarche. Et disons que je pense pas qu'on était à contre-courant, on voulait être dans une justesse vis-à-vis des diverses créations et vis-à-vis de ce qu'on était soi-même.
Moi, ce qui m'est apparu lorsqu'on a constitué ce petit ouvrage, c'est que c'était vraiment mainstream. C'est-à-dire que Bacon semblait être, pour l'intelligentsia parisienne en particulier, le passage obligé. Tout le monde y va. Les psychanalystes, les historiens, les poètes, les romanciers, etc. C'est fascinant. Et d'où la question que je me suis posée, mais pourquoi cette cristallisation sur l'œuvre de Bacon à ce moment-là pour toute une génération de penseurs et d'écrivains. Il m'a semblé que c'était parce qu'il permettait de projeter et de déployer une exégèse qui était associée à ce qu'était le panthéon littéraire de l'époque, c'est-à-dire la triade Nietzsche, Bataille et Sade. Mais c'est une de mes hypothèses. Il reflétait au mieux ce qu'étaient les valeurs partagées par cette génération d'écrivains et de penseurs. Parce que c'est quand même exceptionnel la quantité de production littéraire qu'il a été capable d'initier. Et puis, il n'y a plus de pro-Bacon que de contre-Bacon dans ce moment-là, en tout cas.
C'est la fin de cette émission, hein, hélas, Agnès Van Ouvang, Didier Ottinger, Yves Perret, que je vous laisse terminer entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Moi, je crois, pour reprendre ce que vous venez de dire, qu'il y a une dimension extrêmement universelle, chez Bacon, complètement universelle, intemporelle, et là, le choix que vous avez fait, ces six écrivains, il me semble que la chose commune, c'est peut-être une fascination pour, en tout cas de la part de Bacon, pour la littérature et le mal. Je me souviens des dernières.
Et vous pensez que c'est une valeur qui aujourd'hui est encore partagée par écrivains?
Je suis pas sûre. Je pense qu'on est peut-être plus dans des valeurs plus subversives, défaire les modèles, des modèles hégémoniques, dominants, le patriarcat, par exemple. Vous disiez qu'il y avait très peu de femmes qui écrivaient sur Bacon, et on est peut-être plus, enfin en tout cas pour ma part, dans des réflexions sur de ce genre-là. Et, vous croyez pas?
Non, j'ai pas le sentiment, mais je me faisais souvent la remarque au moment où je préparais l'exposition Bacon en me disant, mais finalement, tous ces auteurs-là, ceux qui l'affectionnaient, aujourd'hui, ils seraient à peu près tous inculpés. Le premier est Schiele, évidemment, en termes de violence conjugale, je crois qu'on a rarement fait mieux. Oui. On sait que Bataille était un pornographe fréquentant avidement les bordels, etc., etc. Je veux dire, toute cette génération-là, et ces penseurs-là en particulier, sont assez peu conformes à... assimilable par une idéologie qui me semble avoir quand même évacué le mal. D'ailleurs, c'est amusant de voir que dans l'article de Bataille, qui est lu dans l'exposition par Mathieu Amalric, on finit par cette constatation qu'une population ou une civilisation qui est plus capable d'affronter la terreur des abattoirs va être condamnée à manger du fromage. Et quelqu'un me disait, mais on en est même plus là, puisqu'aujourd'hui, le fromage, il est fait à partir de soja et autres.
On peut dire, non mais oui, il y a une véritable universalité. De toute façon, il a toujours été fort combattu et toujours fort adulé en même temps. Il y a aussi un côté scandaleux. Son œuvre, sa vie et son œuvre avaient un côté un peu scandaleux et donc du coup avait quelque chose, je dirais un peu superficiellement attrayant. Il y avait une autre chose qui était beaucoup plus forte, comme on l'a dit tout du long, c'est la dimension fortement tragique, fortement sacrificielle qu'il y avait dans son œuvre. Et aussi, avec toujours chez lui, il n'y a qu'à regarder les touches en bas des tableaux ou sur les côtés, comme ça, d'une tendresse inouïe, d'une beauté invraisemblable de quelqu'un qui a beaucoup regardé Monet, beaucoup regardé Manet, pour faire une telle douceur de la peinture. Il y avait les deux. Et tout ça était plus important, effectivement, que la partie un peu scandaleuse qu'on voulait mettre en avant. Sa vie, le fait qu'il était un alcoolique, le fait qu'il était un homosexuel, le fait qu'il était un joueur invétéré, tout ça a été mis très en avant et comptait beaucoup pour certains. C'était pas le plus important. C'était assez important, puisque c'était sa vie, bien sûr. Mais ce qui était le plus important, c'était le saut que représentait chaque tableau par-dessus cette espèce de difficulté à être, parce que c'était quand même ça dont il était... Il fallait s'en sortir. Et il s'en sortait par un tableau.
La compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, à la technique, Alain Joubert, à la préparation, Thierry Beauchamp, et à la réalisation, François Connac. Bacon en toutes lettres, c'est au Centre Georges Pompidou jusqu'au 20 janvier. Et vous y retrouverez Agnès Van Ouvang le temps d'une lecture le 10 octobre prochain, dans le cadre du Bacon Book Club BBC, donc aux côtés de Nathalie Léger et de Fiorenza Menini, puis pour être tout à fait complète, la compagnie des œuvres, sur cette même antenne, sur France Culture, lui consacrera la semaine du 30 septembre.